Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 10 décembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Au Ghana, les observateurs jugent régulière la réélection du président Nana Akufo-Addo contestée par l'opposition. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale examine ce jeudi une demande de destitution de sa présidente Jeannine Mabunda. Le Soudan retire la nationalité à 3500 personnes, principalement des Syriens naturalisés sous le régime de Béchir. L'Agence américaine des médicaments a commencé l'examen en public de l'efficacité d'un vaccin contre le coronavirus. Après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Ghana, les observateurs jugent régulière la réélection du président Nana Akufo-Addo, proclamé mercredi par la commission électorale. L'opposition conteste. Le point avec Abdourahmane Dia.
Un représentant de la coalition des observateurs ghanéens, Ari Mayo Chaibou, a déclaré lors d'une conférence de presse que les résultats annoncés par la commission électorale reflètent la manière dont les Ghanéens ont voté lors de l'élection présidentielle du 7 décembre. La coalition, qui a surveillé 4000 des 38000 bureaux, conseille aux candidats de faire confiance à ces résultats et les encourage à résoudre pacifiquement d'éventuels différends par la voie légale. Nana Akufo-Addo, le chef de l'État sortant, leader du nouveau parti patriotique, a remporté 51,59% des voix contre 47,36% pour le candidat de l'opposition du Congrès national démocratique, John Mahama, selon les résultats de la commission électorale. Le NDC a aussitôt rejeté ces résultats et annoncé un recours. Les preuves accablantes disponibles nous empêchent d'accepter cette conclusion fallacieuse et précipitée, a déclaré mercredi soir un parlementaire de ce parti, Haruna Idrissou. Dans son discours de victoire mercredi, le président Akufo-Addo a appelé à l'unité et à la paix.
En République démocratique du Congo, des députés proches du président Félix Tshisekedi ont commencé l'examen d'une demande de destitution de la présidente de l'Assemblée nationale, une nouvelle étape dans l'initiative du chef de l'État pour renverser la majorité parlementaire fidèle à Joseph Kabila. Le point avec Eric Manirakiza.
La plénière a été convoquée par un nouveau bureau provisoire de l'Assemblée, installé mardi à l'initiative des partisans de Félix Tshisekedi. Une séance plénière a commencé en début d'après-midi pour l'examen et le vote des pétitions à charge des 6 membres du bureau sortant. Première visée, la présidente de l'Assemblée, Jeannine Mabunda, s'est défendue sur le fond pendant plus de 15 minutes face aux accusations d'opacité dans sa gestion financière. Elle a demandé à l'Assemblée de rejeter cette pétition formulée à son encontre. L'Assemblée pourrait se prononcer par vote dès aujourd'hui, après avoir entendu la défense des 5 autres membres du bureau sortant, dont un vice-président accusé d'incompétence notoire, 2 rapporteurs et 2 questeurs. M. Tshisekedi a annoncé qu'il souhaitait dégager une nouvelle majorité à l'Assemblée pour soutenir sa politique de réforme, faute de quoi il menace de dissoudre la Chambre basse. Les fidèles de M. Kabila revendiquent une majorité parlementaire de plus de 300 députés sur 500. Ils accusent M. Tshisekedi de vouloir instaurer un régime dictatorial au service d'un pouvoir personnel.
Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a été désigné candidat à la présidentielle prévue en mars 2021. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse par Pierre Moussa, président par intérim de la majorité présidentielle. Le PCT, principal parti au pouvoir, avait investi M. Sassou Nguesso dès son congrès de décembre 2019 à Brazzaville. La date du scrutin prévue en mars par la Constitution reste à fixer. Amnesty International accuse le régime du président camerounais Paul Biya de poursuivre une répression des opposants caractérisée par des arrestations, détentions arbitraires et poursuites devant les tribunaux militaires. Sur plus de 500 personnes arrêtées, le 22 septembre pour avoir manifesté ou voulu manifester au moins 160, majoritairement des militants du MRC de Maurice Kamto, sont toujours en détention, affirme Amnesty dans un communiqué. Un procès aux assises a été ordonné en France contre un ex-commandant rebelle libérien accusé d'actes de torture pendant la première guerre civile. Le juge d'instruction Michel Raffray a renvoyé devant les assises Kunti Kay pour actes constitutifs de crimes contre l'humanité. Responsable d'une faction de l'Oulimo dans le comté de Lofa en 1993 et 94, il a été accusé par plusieurs victimes d'avoir commis des pillages, viols et tortures, entre autres violences. Le roi Mohamed VI a salué la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Rabat a également confirmé la reprise de ses relations avec Israël. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dans un communiqué, l'administration Trump indique qu'à partir d'aujourd'hui, les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur l'ensemble du territoire du Sahara occidental et réaffirment leur soutien à la proposition d'autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable du différend sur le territoire du Sahara occidental. Washington estime qu'un État sahraoui indépendant n'est pas une option réaliste pour résoudre le conflit et qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution possible. Une position claire et sans équivoque qui plaît donc à Rabat, qui a aussitôt réagi pour s'en féliciter. Le Maroc a aussi confirmé qu'il reprenait ses relations diplomatiques avec Israël, une information annoncée un peu plus tôt par le président américain Donald Trump. Une autre avancée historique aujourd'hui, a écrit sur Twitter le président Donald Trump. Il a ajouté que nos deux grands amis, Israël et le Royaume du Maroc, ont accepté de normaliser complètement leurs relations diplomatiques. Un grand pas en avant pour la paix au Moyen-Orient.
En Libye, les forces du maréchal Haftar ont annoncé avoir relâché un navire appartenant à un armateur turc saisi samedi dans les eaux territoriales libyennes. Le commandement général a relâché le navire Mabruka, battant pavillon jamaïcain, après l'avoir inspecté et terminé l'enquête, a annoncé le porte-parole du maréchal Ahmad al-Misrimari, précisant que les responsables du navire ont dû payer une amende pour accès à une zone interdite. En Égypte, ouverture ce jeudi du procès de Mahmoud Ezzat, guide suprême par intérim des frères musulmans. L'audience a eu lieu devant la cour de sûreté de l'État de la prison de Tora et la prochaine a été fixée au 4 janvier. Ezzat avait été arrêté fin août au Caire après avoir été recherché pendant 7 ans. Il est notamment accusé d'avoir supervisé l'assassinat de militaires et autres officiels, dont l'ancien procureur général Hicham Barakat. Le président français Emmanuel Macron a remis la plus haute distinction française à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi lors de sa visite à Paris, a confirmé l'Élysée ce jeudi après la diffusion d'images par la présidence égyptienne. La vidéo de la cérémonie, filmée lundi soir par la délégation égyptienne, a été diffusée en France sur la chaîne TMC. L'attribution de la Grande Croix de la Légion d'honneur à Sissi a suscité diverses réactions sur les réseaux sociaux. Un tribunal de Nairobi a condamné l'État kényan à verser des dommages et intérêts à 4 femmes victimes de violences sexuelles au cours de la crise électorale meurtrière de 2007-2008. Les 4 victimes recevront chacune l'équivalent de 36 000 dollars.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie a fait au moins 1 570 000 morts dans le monde. Le point avec John Lyndon.
Plus de 68 millions de cas ont été diagnostiqués, dont au moins 43 millions sont considérés comme guéris. Sur la seule journée d'hier, au moins 12 500 nouveaux décès et environ 655 000 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les États-Unis, pays le plus touché, ont dépassé hier la barre de 3 071 morts sur une seule journée avec un total de 289 450 décès et plus de 15 millions de cas selon le comptage de l'Université John Hopkins. Les résultats complets des essais cliniques du vaccin Pfizer-BioNTech ont été publiés jeudi dans le New England Journal of Medicine, la revue médicale la plus cotée aux États-Unis. La publication confirme la très forte efficacité à 95%, quel que soit l'âge, le sexe, l'origine ethnique, le poids ou la présence de pathologies. Un comité d'experts, convoqué par l'Agence américaine des médicaments FDA, a commencé jeudi à examiner en public les données de ce vaccin dans le but de recommander ou non son autorisation de mise sur le marché, ce qui ne laisse plus aucun doute.
La fondation Bill et Melinda Gates a annoncé qu'elle allait injecter 250 millions de dollars supplémentaires dans la campagne internationale pour combattre la pandémie de coronavirus. Une partie de ces fonds sera consacrée à la distribution de vaccins dans des régions d'Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Linden.
En RDC, le secteur de l'enseignement a consommé environ 1044 milliards de dollars de janvier à fin novembre 2020 sur des prévisions d'environ 1766 milliards de dollars, soit un taux d'exécution de 59,28%. Selon les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, c'est des dépenses concernent l'enseignement de base, l'enseignement supérieur, la recherche et le développement, entre autres. Les États d'Afrique subsaharienne ont vu leur perspective de notation négative confirmée par l'agence de notation Fitch Ratings. Seule la Côte d'Ivoire est sur des perspectives positives. La région fait face à une hausse de la dette conjuguée à des pressions budgétaires qui pèsent sur la liquidité. Fitch prévoit que la dette publique arrivera à des niveaux inquiétants en 2021 et 2022, période pendant laquelle 7 pays de la région auront des dépenses d'intérêt public équivalent à 20% ou plus de leurs revenus. L'Agence française de développement a consenti à un financement d'un peu plus de 866 millions de dollars à l'Égypte. Les accords signés en marge de la visite du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi en France entrent dans le cadre du partenariat stratégique 2019-2023 pour le développement social et économique entre l'Égypte et la France, d'une valeur de 1,2 milliard de dollars.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La Confédération africaine de football a condamné la Fédération gambienne à verser une amende de 100 000 dollars après avoir retenu les joueurs gabonais plus de 5 heures à l'aéroport de Banjul la veille d'un match pour la qualification à la CAN. Mais l'instance disciplinaire de la CAF a aussi sanctionné le capitaine de la sélection gabonaise, Pierre-Emerick Aubameyang, pour manquement aux valeurs sportives et d'intégrité à la suite de la diffusion d'images sur les réseaux sociaux, appelant la CAF, je cite, à prendre ses responsabilités. Beau travail à la CAF, c'est comme si on était revenu dans les années 1990, a écrit la star d'Arsenal sur son compte Twitter. Au Cameroun, le pays d'origine d'Achille Webo, ses compatriotes crient à l'indignation après l'incident raciste dont il a été victime lors du match entre le Paris Saint-Germain et le club turc de Başakşehir mardi en Ligue des Champions. Correspondant sur place à Yaoundé, Emmanuel, je le tape.
Les Camerounais sont solidaires de leur compatriote Achille Webo, victime des propos racistes mardi au Parc des Princes.
Il est anormal de traiter un être humain de nègre, parce que nègre est une appellation purement péjorative.
Je comprends parfaitement la réaction d'Achille Webo. C'est un peu la foi de trop, c'est un peu normal. Il s'est senti insulté.
À Yaoundé, on s'offusque davantage sur le fait qu'un arbitre de football soit impliqué dans cet acte de racisme au cours d'une compétition de lieu FIFA.
Kabir en question qui a commis cet acte doit être sévèrement sanctionné parce que l'emblème de l'UEFA Champions League, ce n'est pas de racisme.
Et à partir du moment où cet arbitre a un comportement pareil, quelle éducation est-ce qu'il peut donner aux hommes de terrain? Cependant, la solidarité des joueurs du PSG et du club turc à l'endroit d'Achille Webo est appréciée à sa juste valeur.
C'est un très bon geste.
Tout le monde a dit on arrête et on les a arrêtés. Ça m'a vraiment touché et j'aimerais que ça conduise comme ça. Si ça ne va pas, on arrête.
Je crois que pour se faire comprendre, c'est mieux de sortir du terrain. Je pense que c'est le seul moyen d'expression que vous avez. Un autre joueur camerounais, Samuel Eto'o, alors sociétaire du FC Barcelone, avait déjà fait face au racisme sur les stades de football en Europe, mais n'avait bénéficié du soutien ni de ses partenaires. Encore moins de ses adversaires. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Dans un communiqué, la Fédération camerounaise de football a exprimé son indignation face à l'attitude du quatrième arbitre qui, selon elle, n'a pas sa place dans aucun stade de football. La FECAFOOT dit apporter son soutien à l'ancien Lion indomptable et manifeste son admiration à Achille Webo et l'attaquant sénégalais Dembaba qui ont remarquablement défendu leur dignité d'homme. Dans un autre communiqué, le collectif des anciens Lions indomptables a aussi condamné le propos du quatrième arbitre roumain. Pour rappel, le match a été poursuivi hier et s'est soldé sur un score de 5-1 pour le PSG devant Başakşehir avec un triplé de Neymar.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge, pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. La victoire officiellement proclamée du président sortant du Ghana, Nana Akufo-Addo, a été jugée régulière par les observateurs locaux ce jeudi, bien que contestée par l'opposition. Le point avec Jacques Aristide.
Après une attente de 2 jours, la commission électorale du Ghana a annoncé les résultats hier soir. D'après elle, Nana Akufo-Addo, le chef de l'État sortant et leader du nouveau parti patriotique, a remporté 6,7 millions de voix, soit 51,59% des votes, contre 6,2 millions de voix, 47,36% pour son prédécesseur et candidat de l'opposition du Congrès national démocratique, John Mahama. Son parti a aussi rejeté ce résultat. Jean Mensa, la chef de la commission électorale, a salué le caractère harmonieux et pacifique du scrutin. J'indique qu'il s'agit d'une élection historique car pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le jour des élections s'est déroulé sans incident ni événement majeur, dit-elle. Le taux de participation a également été très élevé. À l'issue d'une élection présidentielle transparente, juste, ordonnée et pacifique, le nombre total de votes valides exprimés était de 13 434 574, soit 79% du total des électeurs inscrits, ajoute-t-elle. Dans un discours hier soir, le président Akufo-Addo a promis de mettre en œuvre un programme de 17 milliards de dollars pour stimuler la croissance dans ce pays, l'une des plus grandes économies d'Afrique de l'Ouest. La pandémie de coronavirus a frappé les exportations de pétrole et de cacao cette année, entraînant la première contraction trimestrielle en près de 40 ans pour le Ghana, l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique. Ma tâche dans l'immédiat sera de poursuivre le combat contre les effets de Covid-19 sur notre économie et sur nos vies et de mettre la nation sur la bonne voie pour une reprise et un développement économique complet. Avant que la pandémie ne nous frappe, le Ghana était ces dernières années l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Je vous donne ma parole, nous retrouverons cette réputation, affirme Akufo-Addo. Les résultats des élections sont arrivés un jour plus tard que prévu, provoquant hier des protestations du principal parti d'opposition dans la capitale. Avant le scrutin, Mahama et Akufo-Addo ont paraphé un pacte s'engageant à la non-violence, quel que soit le résultat du vote. Cependant, les forces de l'ordre ont enregistré un total de 61 incidents électoraux et post-électoraux dans tout le pays. Dans certains incidents, des coups de feu ont été tirés. On dénombre 5 morts et 19 blessés à travers le pays. Lundi, les Ghanéens ont également voté pour élire leurs 275 députés, mais les résultats de ces législatives n'ont pas encore été communiqués par la commission électorale. Les deux principaux camps contestent une partie des résultats provisoires. La coalition des observateurs ghanéens des élections, qui a surveillé 4000 des 38000 bureaux de vote, conseille aux candidats de faire confiance aux résultats et les encourage à résoudre pacifiquement d'éventuels différends par la voie légale.
Mandia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, Félix Tshisekedi rompt avec le FCC de Joseph Kabila et veut une recomposition de la majorité parlementaire avec la nomination d'un nouvel informateur. Une décision qu'il a prise à l'issue des consultations politiques lancées le mois dernier. Les alliés de l'ex-président, toujours majoritaire au Parlement, disent avoir pris acte. Quelles sont les options du président Tshisekedi pour obtenir une majorité parlementaire? Quelles conséquences politiques de ce bras de fer FCC cache? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi 10 décembre 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA.com.
Au Cameroun, le dispositif sécuritaire autour du domicile de l'opposant Maurice Kamto a été levé. Il était assigné en résidence surveillée depuis le 21 septembre. Monsieur Kamto avait appelé à des marches pour le départ du président Paul Biya au pouvoir depuis 38 ans. Ses avocats avaient dénoncé ce qu'ils qualifiaient de séquestration. Notre correspondant sur place, Emmanuel Juntap, a interviewé l'opposant camerounais.
Il faut que nous réglions les problèmes du pays pour permettre à l'économie de repartir. Si on se fixe des objectifs économiques, il faut créer les conditions. Je constate que sur le plan social, il y a une vraie détresse sociale. Pas d'accès à l'eau potable pour une très grande majorité de nos compatriotes. Pas d'accès à l'électricité, encore plus. Pas de soins de santé dignes de ce nom pour la plupart de nos compatriotes. Et voyez les infrastructures scolaires. Et je ne parle pas de gros équipements comme les routes et autres. Donc, notre pays qui fut naguère, un pays phare en Afrique, est en train de devenir non seulement un pays quelconque, mais il est en train vraiment de reculer tous les classements internationaux, tous les standards internationaux. Vous verrez que nous sommes au bas de l'échelle. Et on passe le temps à m'accuser d'insurrection.
Sur les élections régionales du 6 décembre dernier, vous avez mentionné à la fin de votre déclaration que la résistance nationale va se poursuivre et s'intensifier. Qu'est-ce que l'on devait entendre par là pour ça?
La résistance nationale n'était pas un enracinement ou dans le passé ou une position inerte, mais c'était d'appeler ceux qui sont en charge des affaires du pays aujourd'hui à faire ensemble avec les forces politiques camerounaises, mais également d'ailleurs la société civile aussi, les réformes nécessaires pour permettre justement au pays d'avancer. Et parmi ces réformes, il y a la réforme consensuelle du système électoral, qui reste une vieille demande. Certains croient que nous avons formulé cette demande après 2018, c'est depuis 2013-2014, après les élections législatives et municipales de 2013, dont la résistance nationale continue tant que on n'opère pas une réforme consensuelle du système électoral, tant qu'il y a un bain de sang inutile dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Est-ce que vous considérez désormais comme un homme libre?
On ne peut pas être libre quand on sait d'abord que dans le rang de son propre parti, on a des centaines de camarades qui sont, à l'heure où nous parlons, détenus dans divers lieux de détention dans notre pays, dans des prisons, parfois dans certains centres de détention que nous ignorons.
Écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Tchad, la cimenterie de Baoré dans la province du Mayo-Kébi-Est, qui ne fonctionnait plus depuis 2018, a été relancée début décembre. Quelques 3,5 milliards de francs CFA ont été débloqués par le gouvernement pour rendre opérationnelle cette usine qui produira du ciment pour être vendue à moindre coût afin de permettre à la population d'avoir un logement décent. Le point sur cette reprise industrielle avec André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Aujourd'hui, Dieu merci, c'est relancé. Et on nous a dit que tous les 30 minutes, on charge un camion de 800 sacs. Et dans une journée, on va jusqu'à charger 25 camions.
Kalzebe Paimi Dubu, ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, sur fonds propres de l'État, l'usine s'est dotée de 5 nouveaux générateurs de grande puissance qui peuvent fonctionner sans arrêt pendant 10 ans. Une relance qui donne un nouveau souffle à la politique du gouvernement en matière de l'habitat, puisque le prix d'un sac sorti de l'usine sera fixé à 5000 francs CFA.
Nous, on veut les faits concrets.
Pour le président du collectif tchadien contre la vie chère, Dingamnael Nili Versinis, c'est une promesse électorale qui est en train d'être tenue.
Au niveau du collectif tchadien contre la vie chère, on ne croit pas à cette énième déclaration à but électoral. Tant que nous ne trouvons pas un sac à 5000, nous ne croyons pas. Récemment, ils ont dit qu'ils vont intégrer 20 000 jeunes et qu'une partie sera intégrée fin octobre. Où en sommes-nous? C'est des déclarations trompeuses et nous sommes déjà fatigué, des belles promesses.
Kalzebe Paimi Dubu, ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, insiste sur la gestion rigoureuse pour le bien-être de la population tchadienne.
Aux autorités en charge de l'usine, j'ai insisté sur la nécessité d'une bonne gestion des fleurons relancés désormais, mais sur la nécessité aussi de développer des œuvres sociales en faveur de la population.
Beaucoup de Tchadiens sont pessimistes quant à l'application du prix annoncé par le gouvernement.
Il ne faut pas encore amuser la galerie. Si réellement dit de 30 ans, on n'a pas pu avoir un sac de ciment à 5000 francs, ce n'est pas aujourd'hui qu'on pourrait aussi l'avoir.
Moussa Mahamat Mahdi, président de la Dynamique citoyenne pour la protection des droits du consommateur. Pour lui, il faut accompagner cette mesure d'un acte juridique pour contraindre les commerçants verrés qui ne vont pas respecter ce prix.
Et ça, je fais allusion à un acte du président de la République, parce qu'on dit quelque part l'État doit réguler l'économie. Et la régulation de l'économie ne peut intervenir qu'à travers des actes. Ce ne sont pas des simples annonces.
En revanche, l'architecte urbaniste ingénieur Roger Bouriata Diasngar salue la décision des autorités tchadiennes de revoir en baisse le prix du ciment.
Aujourd'hui, le citoyen lambda achète le ciment à 8500, voire 9000. Si demain, le citoyen doit acheter le ciment à 5000 francs, c'est un gain au moins de 3500 ou de 4000 francs par sac. Donc je crois que c'est une décision salutaire. Cependant, le ciment seul ne fait pas l'habitat décent. Nous, en tant que techniciens, on aurait souhaité que cet élan qui vise la réduction du prix du ciment soit également porté sur les autres corps d'État pour qu'enfin on puisse amorcer un début d'un logement que je n'appellerai pas décent, mais un peu convenable. C'est un début de prise de conscience.
Commentaire en privé des quincailliers rencontrés devant leur boutique à N'Djamena. Pour eux, s'il n'y a pas de mesure d'accompagnement, ils aviseront le moment opportun. André Kodmajingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM, au Tchad.
La Californie, l'État le plus peuplé des États-Unis, connaît une recrudescence de cas de coronavirus. Le gouverneur a ordonné un confinement régional qui n'est pas du goût de certaines. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal+.